Lève-toi, Choupi, c'est l'heure du JT.
Il est pratiquement 19h, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour passer ce week-end en votre compagnie.
Putain, j'aime pas, Julia.
Ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser. Parce qu'il n'y aura pas d'examen dans cette année-là.
Pension de retraite, pourquoi cette faible revalorisation de la part du gouvernement ?
Bande de voleurs.
Offres d'emploi pullulent sur le réseau de Pôle emploi.
Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises.
La procédure fait intervenir un huissier qui vient notifier l'expulsion avant démolition.
Oui ou non, interdire le burkini,
ce maillot connerie cette fois-ci, c'est sûr, je l'éteins là, je l'éteins la télé, même je l'éteins à tout jamais, tu vas voir ce qu'elle va voir, c'est qui ?
Oh, René ! Tous les vendredis, c'est pareil, une télé explosée, hein ? La plus rebelle des radios, la plus rebelle des radios. Wow.
Bonsoir, vous êtes bien sur les ondes de Radio Canu. Il est 19h03 et donc c'est l'heure du Canu Info du vendredi. Et pour commencer, on va vous lire collectivement la lettre d'une prof sur les luttes actuelles dans l'éducation nationale.
Et ensuite, on vous passera un reportage sur la manif de la fonction publique du 9 mai dernier.
Ensuite, on vous parlera de quelqu'un qui s'est pris de la ferme pour avoir mangé un yaourt dans sa cellule du CRA.
Et puis toujours à Lyon, on ira du côté du collectif de l'ancien collège Maurice Sève qui réagit à un article honteux du Progrès sur les jeunes mineurs étrangers.
Et on verra toujours à Lyon comment la police a attaqué le marché du Ramadan.
Ensuite, on vous donnera le rendu du procès de l'Amphi-Z.
Et puis on vous fera un petit point sur l'appel Gilets jaunes sur la manif pour demain.
Et attention, national, on écoutera comment un collectif abolitionniste a déposé le slogan militant « Bois mes règles » comme une marque et empêche maintenant de pouvoir l'utiliser.
Et ensuite, on vous parlera encore et toujours de violences policières avec le retour très dégueu des voltigeurs.
Et enfin, du côté de l'international, on verra comment les indigènes se rebiffent contre Bolsonaro.
Et on finira, comme d'habitude, par l'agenda, si vous êtes gentil et gentil, peut-être même un ACAB.
Bonne écoute du Canu Info.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rhône de la région qui s'appelle Stéphane Boulet.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénix.
Pour savoir où est-ce qu'on en est de la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Ce reportage sur la grève
qu'on a vu à les interjouer pendant la masse du rassemblement pour le premier arrivé. Qui est l'école de l'Opéra de Lyon.
Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
Et pour commencer, cette rubrique qu'on fait croire qu'elle est locale, en fait, elle est surtout nationale. Parce que on va vous lire une lettre qui a été écrite par une enseignante sur les luttes actuelles dans l'éducation nationale. Et vous retrouverez cette lettre un peu de partout, mais on l'a trouvée chouette, alors on avait envie de la partager avec vous. Donc, le jeudi 9 mai était une journée de grève dans la fonction publique. Vous remarquerez que j'adapte un petit peu parce que c'était « et » une journée dans le texte, mais du coup, là, comme c'est passé, je me permets de changer un peu. Voilà. Et du coup, c'était dans la fonction publique, hôpitaux, postes, écoles, le système Macron détruit tout, la casse de l'école publique est en marche. Que ce soit à l'hôpital, dans les services sociaux, à la protection de l'enfance, dans les écoles, dans les tribunaux, le constat est simple. Le gouvernement et ses projets de réforme ont pour objectif de détruire ce qui existe pour laisser à la place une marchandisation féroce des droits droits fondamentaux. Le 9 mai, à l'appel des syndicats, je serai en grève et dans la rue pour manifester ma colère et profiter de ma liberté d'expression de plus en plus menacée.
Et pourquoi ? Parce que l'école est appauvrie. De réforme en réforme, chaque année, les conditions de travail se dégradent et avec elles, les conditions d'apprentissage des élèves. Les effectifs ne cessent d'augmenter. En 8 ans, je passe de 19 élèves à 26. Les moyens financiers, à l'inverse, diminuent. Logique, plus de mômes, même budget. Les mairies pauvres font ce qu'elles peuvent. Mais comment fournir ce que le ministère demande ? Un accès au numérique, des équipements sportifs, des salles pour les activités périscolaires.
Coup de grâce avec le projet de loi de l'école de la confiance. L'obligation scolaire s'étendant à l'âge de 3 ans, les municipalités se voient dans l'obligation de financer les écoles maternelles privées. Encore une saignée dans les budgets de l'éducation.
La liberté pédagogique demeurait jusqu'alors un des principes du métier d'enseignant ou d'enseignante. Dans le cadre d'un programme scolaire établi par le ministère, les professeurs avaient la latitude d'instaurer dans leur classe les méthodes qui leur semblaient bénéfiques aux apprentissages de leurs élèves et pouvaient s'exprimer quand les contenus leur paraissaient contestables. Dorénavant, avec la loi Blanquer, l'enseignant ou l'enseignante n'a plus le droit de s'exprimer sous peine de pression immédiate.
L'enseignant ou l'enseignante ne pourra plus choisir parmi les formations continues, proposer les contenus qui l'intéressent, le questionnent ou lui semblent répondre à ses difficultés pédagogiques. C'est 18 heures de formation obligatoire en français et en maths. Le nouveau credo est simple, lire, écrire, compter et respecter les lois. Enfin non, le chef. Les nouveaux enseignants et enseignantes, tout juste déformés par les écoles de formation au professorat, n'ont qu'à bien se tenir. Le contenu des cours prévus pour l'année scolaire à venir est simple, 80% des heures pour les fondamentaux. Et voilà comment transformer les sciences humaines, les sciences techniques, l'art ou les langues vivantes en accessoires, voire en gadgets.
Alors comment faire ? On me demande d'éduquer des bataillons de moutons en leur inculquant le respect et non l'indignation éclairée. On me demande de leur fournir des bases fondamentales qui leur permettront de se glisser dans des contrats de travail précaires dans quelques années.
Personnellement, je ne peux me résoudre à imaginer que je deviens une simple courroie de transmission d'une société qui me dégoûte, qui a servi les plus faibles et continue de leur faire croire que le bonheur est dans la consommation et le développement durable.
Que ce soit dans le contenu des cours, dans la mise au pas des fonctionnaires, dans l'absence d'ambition intellectuelle, dans l'accroissement des inégalités territoriales, tout dans le système Blanquer me rebute, me révulse. Je continuerai donc à lutter et élever la voix, n'en déplaise à mon ministre et ses sous-chefs. Et continuerai à rêver d'une école émancipatrice et créatrice d'intelligence éclairée.
Et donc ça, c'était pour la lutte dans les écoles. Et maintenant, on va aller faire un petit tour au sein de la manif du 9 mai à Lyon.
On va pas se laisser faire aujourd'hui dans la rue. Demain, on continue.
Radio Canu 102.2.
On est là pour deux choses. On est là d'abord pour ce qui concerne l'éducation, parce que c'est la suite d'une mobilisation sur la réforme du lycée qui a commencé il y a plusieurs mois maintenant. Moi, je suis professeur en collège à Villeurbanne.
Reportage.
Et puis en plus, là, ça rejoint toute la fonction publique sur des choses qui nous concernent en tant que fonctionnaires, sur la réduction du nombre de titulaires pour avoir recours aux contrats précaires et moins payés massivement. Et ça, aussi bien pour l'hôpital que pour l'éducation. Et c'est bien aussi justement qu'on n'ait pas l'impression de faire les choses tout seul dans notre coin, pour notre petit secteur, pendant qu'il y a les gilets jaunes, les mobilisations avec des mots d'ordre très larges. Là, c'est le moment où on fait le lien, et c'est important.
Alors moi, je suis enseignante, je suis professeure de sciences économiques et sociales au lycée de Tarare. Alors les raisons de la lutte, donc c'est une grève unitaire fonction publique, donc c'est contre la loi école de la confiance que M. Blanquer a mis à l'Assemblée nationale. Donc il y a une envie de recourir davantage aux contractuels, donc des contrats courts, corvéables à merci, qui sont sous la pression hiérarchique directe et qui n'ont pas forcément de formation, donc qui n'ont pas passé le concours. Et il y a des articles un petit peu plus vicieux sur le fait d'amener beaucoup plus d'inégalités territoriales, sociales, donc avec une école à double vitesse où on aurait des écoles du socle pour un peu les catégories populaires, il ne faudrait pas qu'elles montent trop. Et puis des écoles au contraire d'élite avec des envies de faire des établissements internationaux où finalement on renonce à la démocratisation scolaire. Donc cette grève, elle n'est pas là que pour défendre en fait une corporation de fonctionnaires, mais aussi pour le service public. C'est vraiment avant tout pour le service public.
On est dans la rue contre la réforme de la fonction publique. Il se trouve que c'est une réforme qui aura pour conséquence un moins bon service public auprès des usagers. Alors moi, je suis responsable au niveau de la CFDT à temps complet, mais je suis fonctionnaire territorial issue de la mairie de Lyon.
Dernièrement, je ne vous ai pas beaucoup vu, vous, la CFDT dans la rue. Comment ça se fait que cette fois-ci, vous descendez?
Eh bien, parce qu'il y a un moment pour négocier et il y a un moment pour manifester. On est arrivé au bout de la négociation, donc maintenant, on est dans la rue.
J'ai pas du tout vu la CFDT dans les cortèges du 1er mai, à Lyon en tout cas, comment ça se fait?
Mais on a manifesté en vélo. Nous.
Mais vous vouliez pas être avec les autres manifestantes, manifestants?
Disons que pour être ensemble, il faut pouvoir s'entendre. Et il y avait un point d'achoppement qui était...
C'était lequel?
Eh bien c'était la présence, notamment hein, la présence des gilets jaunes dans les cortèges.
À la CFDT, on n'aime pas les gilets jaunes?
C'est pas qu'on les aime pas, non. Oulala, me faites pas dire ce que j'ai pas dit.
Mais les gilets jaunes vous ont viré de la manif.
Mais non, on n'a pas été viré de la manif. C'est Martinez qui s'est fait virer à Paris, qui a été exfiltré.
Par la police?
Ah ben oui, mais il a été exfiltré.
Pour pas finir CRS!
Tout le monde à la vanne!
Pour pas finir à la vanne!
Eh ben, on est dans la rue contre toutes les lois Blanquer, donc Parcoursup et la réforme du lycée, la loi sur l'école de la confiance, qui est une catastrophe pour... les instits, pour avoir plus de moyens aussi pour nos collègues des collèges, parce que c'est eux qui subissent aussi les baisses de moyens drastiques, et notamment en banlieue. Nous, on est un collectif des collèges, écoles et lycées de Vénissieux. Là, on a fait un gros cortège à Vénissieux, on est parti, on a foutu une bonne ambiance dans le métro, et puis là, on est à Bellepoint.
Alors moi, je suis prof d'anglais aux Minguettes, à Vénissieux.
Ça se voit concrètement comment, ce manque de profs aux Minguettes, à Vénissieux?
Alors ça se voit concrètement, d'une part, par l'augmentation du nombre d'élèves par classe. On n'a plus assez de chaises et de tables pour mettre tous nos élèves. Tous les ans, on est obligé de lutter contre la fermeture des classes. Plus tu as d'élèves, moins tu peux leur expliquer correctement les choses, moins tu peux prendre le temps pour eux. Et puis sur les moyens alloués aux élèves aussi directement, on a de moins en moins de sous. On peut faire de moins en moins de projets.
Ce que je vois, c'est qu'en fait, on se fout de notre gueule. On nous dit que voilà, l'éducation, c'est une priorité, patati patata. Et puis en fait, sur place, on n'a pas les moyens de faire notre travail correctement. En fait. Donc ouais, là, je vois une vraie dégradation sur cette année, avec notamment la réforme du bac. Ouais. Moi, je suis prof au lycée Jacques Brel. Bah, je pense qu'on est quand même une profession de bons élèves. Donc de gens, on fait des manifs de temps en temps. Mais en fait, on est bien gentils, on rentre dans le rang facilement. Mais là, il y a un vrai ras-le-bol général.
Eh bien, on est en train d'enterrer l'école publique. Tout simplement. Je suis enseignant à Vaux-en-Velin, au collège Barbus. Je suis prof de maths. On fait tout pour que voilà, les gamins aillent dans le privé et c'est lamentable.
On a l'impression d'être laissé seul, d'être abandonné au profit du privé notamment. Et nos élèves, on n'arrive pas à leur offrir l'avenir dont on rêve pour eux, quoi. Et malheureusement, dans les banlieues, ils partent avec l'idée qui sont inférieurs, qui resteront toute leur vie en cité, qui de toute manière ils n'ont pas d'avenir, et j'ai bien peur que ça soit de plus en plus une réalité.
C'est une réforme qui crée de la ségrégation scolaire encore plus qu'elle n'existe déjà. Le truc un peu phare, c'est le bac, puisque là le bac ne serait, d'après ces lois, ne serait plus national, mais serait en contrôle continu. Donc en fonction des établissements, la valeur des notes est certainement différente. Et encore plus pernicieux, c'est que les universités prédisent que certainement les lycées de zones défavorisées vont peut-être surnoter leurs élèves pour essayer de les aider à avoir le bac. Enfin bon, ça crée des trucs qui rendent le bac plus du tout national, mais au contraire différent en fonction des endroits. Cette loi, elle supprime les centres d'orientation, donc ça veut dire que les élèves qui veulent savoir qu'est-ce qu'il faut choisir comme option au lycée pour pouvoir aller faire sa candidature dans Parcoursup, bah, ils peuvent pas savoir, c'est opaque.
Je crois que c'est l'année dernière que dans mon établissement, on s'est retrouvé avec une trentaine d'élèves qui n'ont pas eu d'orientation après le collège. Il y a de plus en plus d'élèves, mais il n'y a pas plus de place. Sur Vénissieux, ils ont construit un lycée il y a quelques temps qui est déjà plein à craquer. Ils n'ont même pas les moyens d'accueillir tous les élèves de leur secteur. Dans les formations professionnelles, c'est la même chose, il n'y a plus de place. Et le problème aussi, ce qu'on ne sait pas assez, c'est que si un élève est dans l'année de ses 16 ans, l'État ne s'en occupe plus. C'est-à-dire que tous les élèves qui sont dans l'année de leurs 16 ans, on ne leur donne pas d'orientation. Et ces élèves-là, ils restent en bas des tours.
Moi, je suis militant syndical, je suis assis d'éducation. Depuis des années, je participe à la vie de mon syndicat, on fait des formations, on fait des actions, on va soutenir des gens, on fait des tracts, on tient des sites. Depuis au moins 3 ans, quoi, depuis la loi travail, c'est une bouffée d'air, avec à la fois des gens qu'on voyait pas, qu'on n'arrivait pas à mobiliser, et puis aussi des formes d'action qui d'un coup interrogent l'opinion publique et font flipper le pouvoir vachement plus que ce qu'on pouvait faire avec nos journées de grève au carré, ça c'est bien, ouais, c'est ce qui redonne un petit peu
d'allant au mouvement social, et c'est chouette.
Je viens parce qu'il y a plein d'agitation sociale et plein de luttes. Alors du coup, essayer de voir ce qui peut se passer. Alors dernière fois qu'il y avait un appel de la CGT, il y avait pas mal de gilets jaunes, du coup c'était parti en sauvage. J'espérais un peu que ça reparte un peu comme ça aujourd'hui. Mais j'ai bien l'impression que c'est pas le cas et que ça va gentiment être discipliné et rentrer chez soi. Tu vois, là on arrive quand même à marcher en plein milieu de la presqu'île alors que cette zone est interdite aux manifestations depuis maintenant 2 mois.
J'ai l'impression que ça fait des mois et des mois que les gilets jaunes n'ont pas pu parcourir la presqu'île. Comment ça se fait qu'aujourd'hui c'est possible ?
Eh ben, j'ai été surpris parce que j'ai fait la manif de samedi dernier. Et c'est vrai que là, ça me fait tout drôle. Effectivement, vous avez raison de pouvoir remonter à la rue de l'Arrêt alors qu'elle était interdite de chez interdite. Bon, après, une manif fonction publique, l'État prend pas trop de risques. Hein, voilà. Mais après, moi, je mets mon gilet jaune parce que je suis un peu de tous les combats. Mais
alors, vous, c'est quoi votre job ?
Moi, je suis prof de maths en collège. Et j'ai vraiment rejoint l'acte 15. Quand j'ai vu la répression qui s'intensifiait, je me suis dit non, là, c'est pas possible. Il faut que j'aille soutenir les gens sur le terrain que je soutenais derrière mon ordinateur et derrière ma télé. Là, j'ai fait le choix, au moment où la répression vraiment devenait de plus en plus importante, d'aller sur le terrain. Dans l'éducation nationale, c'est assez compliqué déjà de faire bouger les gens pour les grèves et les manifs classiques. Alors, j'ai un peu parlé des gilets jaunes. J'ai vu que la désinformation qu'il pouvait y avoir était assez forte. Beaucoup de mes collègues croyaient effectivement ce qui a été dit à la télé. Et je pense que les manifs là, plus les manifs gilets jaunes, plus au 1er mai, plus, c'est ça qui va faire qu'il y aura un réel changement.
Pardon ? Je dis à la jeune qu'elle ferait mieux de travailler, elle a 15 ans. Ben, je ne sais pas ce qu'ils font, moi, là. Ils devraient être en classe.
Mais c'est une réforme qui les concerne, pourtant, cette réforme de M. Blanquer.
Et alors, elle n'est pas bien, cette réforme ?
Bah, a priori,
non. Ben, alors qu'ils aillent se faire foutre en Angleterre, tiens.
Bah, des élèves de 15 ans ?
Oui.
Qu'ils aillent se faire foutre en Angleterre ?
Bon, allez, j'en ai marre de tous les gilets jaunes, les contestataires et tout. Et de façon qu'on fasse n'importe quoi en France, il y a tout de suite les gens dans la rue. On ne peut pas faire de réforme. La France est ingouvernable. Le général de Gaulle l'a dit lui-même.
On va tout casser chez toi !
Le 18 mai, on appelle à une grande manifestation nationale à Paris. C'est un samedi, c'est pas une grève. Donc on va prendre sur notre temps aussi pour pouvoir montrer qu'on est là et on est contre cette casse, en fait, cette destruction de la fonction publique et des services publics.
Dans la manière de militer, j'ai l'impression que là où se situe l'imagination aujourd'hui des syndicats et des militantes et militants, c'est en dehors de la grève. Ça veut dire que la grève aujourd'hui pour les nouvelles générations de professeurs, ça n'a plus de sens.
C'est pas simplement qu'on ne croit plus en la grève, c'est qu'il faut tenir. Quand vous en êtes à une, deux, trois, une semaine de journée de grève, le pouvoir d'achat, on comprend les gilets jaunes. Hein. Nous aussi, on est concernés. Moi, je suis maman solo, je touche la prime d'activité. Ça fait 10 ans que j'enseigne, j'ai un bac plus 5. La demande de révolution fiscale, d'une fiscalité plus juste avec un impôt proportionnel qui fait vraiment son rôle, bien sûr qu'on rejoint. Les difficultés de pouvoir d'achat, bien sûr qu'on rejoint. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un enseignant à bac plus 5 est recruté par concours à 1,3 SMIC à peine. Et au bout de 10 ans, on n'a toujours pas passé le 2000 euros. Donc, bien sûr qu'on rejoint tout ça. Et je pense que beaucoup de collègues se joignent à la critique sociale qui émerge des gilets jaunes.
Alors justement, là, j'ai vu quelques gilets jaunes. Ils sont très, très, très rares dans cette manifestation, contrairement à celle du 1er mai. Est-ce que vous êtes descendu les samedis dans la rue ?
Non, moi, je ne l'ai pas fait. Honnêtement, au début, c'était parce que je ne savais pas trop quoi penser de ce mouvement-là. Et puis, au cours du mois de décembre, je trouvais que ça se clarifiait assez sur des préoccupations sociales et politiques de démocratie directe et la volonté de ne pas se limiter juste à une taxe sur ceci ou sur cela. Donc les mots d'ordre, moi maintenant je peux dire que je les partage vraiment. Après c'est beaucoup plus bête que ça. En jeune père de famille, les samedis, je suis resté tranquillement à l'abri parce qu'il y a eu un niveau de répression et à Lyon, si on rajoute les fachos de violence en plus, qui fait que j'ai pas osé me prendre mon samedi pour descendre.
Alors moi je suis un retraité cheminot et je suis aujourd'hui dans la rue pour la défense des services publics. J'étais conducteur de train. Nous la misère ça fait longtemps qu'on la voit et qu'on la combat quoi, à la CGT.
Chanter pour se faire entendre de notre ministre de l'Éducation nationale.
Et vous chantez que vous lâchez rien, c'est ça ?
C'est ça, parce qu'on est motivés, déterminés. Ça fait plusieurs journées de grève et de mobilisation qu'on enchaîne et on ne veut rien lâcher.
Et demain, vous êtes encore dans la rue ou au moins en grève ?
Demain, moi, personnellement, je serai en classe parce que c'est compliqué aussi personnellement d'être en grève reconductible. Par contre, il y a de nouvelles journées de mobilisation qui sont prévues. Et puis on va varier les actions aussi. Le but, c'est d'être audible et puis avec les parents d'élèves, parce que l'école version Blanquer, ça concerne aussi les parents et leurs enfants pour l'avenir.
Ça veut dire quoi, varier les actions?
Ça veut dire faire aussi des rassemblements, ça veut dire des pétitions, ça veut dire des rassemblements aussi plus locaux, parce que les parents d'élèves, eh ben, c'est plus compliqué de les faire se déplacer plus loin. Donc voilà, ça veut dire des banderoles sur les écoles, sur les collèges, sur les lycées, ça veut dire plein de choses, des réunions publiques.
Ça vous fatigue pas, ces sonos ultra forts?
Bah, en même temps, on a un ministre un peu sourd, alors faut qu'on monte le son.
Voilà. Bah, bon courage, ne lâche rien alors.
On lâche rien.
On lâche rien. On lâche rien.
Et à Lyon, on continue à rien lâcher, notamment dans l'éducation, où il y avait du coup une grande AG suite à la manif du coup de jeudi, qui a permis de revenir sur tous les secteurs qui étaient mobilisés à Lyon. Donc je vais faire un petit tour comme ça pour rigoler, mais vite fait. Il y a donc par exemple à Vau-en-Velin, du coup les enseignants et enseignantes de Vau-en-Velin étaient dans le camion à foot du vendredi soir, vendredi dernier, donc ils et elles sont en grève reconductible, et il y a de plus en plus de parents qui se seraient organisés. D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait une journée école morte avec un concert de bruit devant chaque école. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être un mode de mobilisation assez récurrent dans toutes les mobilisations là, qu'il y a devant les écoles. Donc, il y avait un petit peu la même chose du coup à Villeurbanne, parce que les enseignants, enseignantes et puis les parents d'élèves sont mobilisés depuis le 29 avril. Une partie des enseignants, enseignantes sont en grève, reconductible d'ailleurs depuis le 29 avril aussi. Et du coup, ce matin, les parents d'élèves ont organisé des opérations école morte et aussi des concerts de bruit devant les écoles primaires et maternelles de la ville. Pendant ce temps, les enseignants et enseignantes grévistes enterraient l'école publique sur la place Lazare-Goujon à Villeurbanne. À Vénissieux, c'est pareil, il y a des lycées qui sont en grève reconductible depuis le 29 avril, et les enseignants et enseignantes ont annoncé qu'ils et elles seront en grève le premier jour du bac. Autant vous dire que ça rigole pas. Donc ça, c'était pour le lycée Samba et le lycée Jacques Brel. Pour le coup, plutôt à Lyon, sur les pentes de la Croix-Rousse, il y a des AG dans le premier et dans le deuxième degré et quelques parents, mais pour l'instant, il n'y a pas forcément de gros mouvements de grève. On a retrouvé un petit peu la même chose à Rieux et à Bron, où il y a 50% à peu près de grévistes en général, et pas forcément de lien encore avec le premier degré, mais du coup, il y a un mouvement qui commence à exister, et c'est un petit peu la même chose du coup un peu partout, quoi. Par exemple, alors, il y a un petit truc un peu particulier à mes yeux, par exemple, le collège a été bloqué deux fois avec les parents, donc c'est plutôt pas mal par rapport à ce qu'on peut retrouver d'habitude dans les blocages de collège ou de lycée, où c'est plutôt les lycéens et les lycéennes ou les collégiens et les collégiennes, et là c'est plutôt rigolo que ce soit les parents qui le fassent. Et du coup, les prochains rendez-vous, alors on a l'impression qu'il y a plein de rendez-vous comme ça, en fait ça se passe tout sur deux jours différents. Il y en a un, c'est demain à 11 mai, il y a l'appel à former un cortège éducation dans la manifestation nationale des Gilets jaunes, et du coup ça sera rendez-vous à 14h devant l'office de tourisme à Bellecour. Et alors après, il y aura une nouvelle journée d'action du coup mardi 14 mai. Donc il y aura d'abord mardi 14 mai un rassemblement à 8h30 devant le rectorat. Je dirais que c'est à l'arrêt de tram San Bertolo, un truc comme ça, ça doit être rue de Marseille, tout à la fin de la rue de Marseille. Et il y aura une AG départementale à la Bourse du Travail à 10h30, et il y aura une action à l'hôtel de ville le 14 mai toujours à 12h30. Autant dire, préparez-vous enseignants et enseignantes pour le 14 mai.
Et maintenant, on va du côté de l'ancien collège Maurice-Sève, qui abrite depuis plusieurs mois plus de 200 jeunes, et le collectif du coup de l'ancien collège Maurice-Sève réagit à un article honteux du Progrès, ce qui va nous permettre de revenir un peu sur le traitement honteux des médias locaux, mais aussi nationaux, comme des pouvoirs publics, sur le sort des mineurs non accompagnés. Donc je vais vous lire le texte qu'ils ont publié cette semaine. Donc les mineurs non accompagnés et jeunes majeurs vulnérables ont besoin de la protection de la métropole et de l'État, pas d'être montrés du doigt et livrés à la vindicte populaire par des médias interposés. Réaction du collectif de l'ancien collège Maurice-Sève à un article du Progrès. Donc dans l'édition du 24 avril du Progrès de Lyon, une double page avec un gros titre, la délinquance des mineurs isolés explose à Lyon. Et un reportage auprès de la police mettant en valeur uniquement le point de vue policier. La parole est d'ailleurs donnée au directeur départemental de la sécurité publique, mais à personne d'autre pouvant porter un autre regard, des sociologues ou des personnes étant sur place, par exemple. Au final, il n'y a aucune mise en perspective avec la question migratoire globale dans cet article. Donc il en ressort toute l'argumentation policière, avec des faits, des chiffres, des arguments, mêlant des réalités sans rapport les unes avec les autres. Des faits d'ultra-violence ultra-minoritaire d'un côté, et une augmentation de la petite délinquance de rue de l'autre. Cette petite délinquance n'étant pas la caractéristique d'une violence des mineurs étrangers, je cite, mais caractéristique du comportement de n'importe quelle population en situation de pauvreté, de survie, de détresse, livrée à elle-même. Les mineurs non accompagnés et jeunes majeurs vulnérables ont besoin et ont droit à la protection de la métropole, du département et de l'État. Par exemple, ont droit à des services sociaux, à des services de santé, à des services éducatifs. Pas d'être montré du doigt et livré à la vindicte populaire, on voit qu'il se répète un peu dans ce communiqué, en indiquant leur nationalité par médias interposés, ce qui fait le miel de l'extrême droite. L'écrasante majorité des mineurs non accompagnés et des jeunes majeurs n'arrivent pas chez nous après des parcours où ils ont beaucoup souffert physiquement et moralement, par plaisir et sans motif. Ils ont fui des situations de guerre, de misère économique ou sociale. Leur but et leur espoir, un avenir, par la scolarisation, la culture, des papiers et du travail. Beaucoup de métiers sur des emplois en tension sont tenus par des jeunes issus de l'immigration qui ne prennent pas la place des Français de souche, comme on dit souvent dans les médias, mais contribuent à produire la richesse dans notre pays et qui s'intègrent. Alors voilà, après, il faut faire toute une réflexion sur la notion d'intégration. Mais en tout cas, voilà, ils arrivent à prendre des métiers. Il n'en est que de voir, lorsqu'on leur tend la main avec bienveillance, avec respect et souci d'intégration, comment ils le rendent avec l'écrasante majorité. Regardez le reportage du Progrès du 15 avril sur le tournoi de foot organisé par le FCC de la Croix-Rousse, intégrant l'équipe du Collège international Maurice Sève. Donc c'est toute la jeunesse du monde qui exprime sa joie de vivre et d'espérer. Plutôt que d'aller lire un article du Progrès, nous personnellement, on vous conseillera de vous rendre à ces tournois de foot la prochaine fois et de vous rendre aussi au Collège Maurice Sève pour parler avec les personnes sur place. Pour reprendre le communiqué, sachez que malgré des conditions très précaires, du fait que la métropole et la préfecture ne mettent pas en œuvre à ce jour leur obligation d'hébergement digne et de protection, ce sont des soutiens bénévoles et des associations qui font tout ce qu'elles peuvent pour des conditions de survie dans des squats avec des jeunes qui, dans leur écrasante majorité, sont des ados pleins d'énergie, de joie de vivre et d'envie de vivre parmi nous et avec vous. En tout cas, c'est des personnes. Nous avons décrit du coup toujours ce collectif de l'ancien collège Maurice Sève dans une lettre ouverte en date du 8 avril. Cette situation difficile pour toutes et toutes propose, et ils ont proposé des pistes de solutions. Et notamment ce collectif donc propose au Progrès de faire un reportage au collège et deux pages sur leur lettre ouverte en la portant à la connaissance des lecteurs et lectrices du Progrès que le point de vue de la métropole et de la préfecture ne relaie pas. Le droit à la formation, à l'information, à la citoyenneté et la démocratie en sortirait du coup pour ce collectif renforcé au bénéfice de tous et toutes et surtout des premiers concernés, les jeunes mineurs isolés. Donc voilà, ça c'était un peu la lecture d'un communiqué dont, qui rappelle surtout en fait qu'il y a un traitement raciste et de la part de la PQR, de la presse locale, mais aussi nationale sur la situation des migrants et des migrantes actuellement et que la situation des mineurs est particulièrement préoccupante à Lyon et que du coup on vous invite toutes et tous à vous rendre si vous le souhaitez à l'ancien collège Maurice Sève pour aller voir ce qui s'y passe et peut-être passer une heure ou deux avec les personnes qui y habitent.
Mais alors figurez-vous qu'à Lyon il n'y a pas que le Progrès qui est raciste mais la police aussi.
Ah ouais ? Du coup oui effectivement et je vais vous parler de ce qui s'est passé donc rue Paul Bert jeudi dernier, enfin jeudi de cette semaine donc en fait donc il y a le marché du Ramadan là-bas et du coup il faut savoir que pas très loin du marché du Ramadan il y a ce qu'on appelle un commissariat qui est place Bahadurion donc depuis 2006 et c'est vrai que depuis la création de ce commissariat on peut dire qu'il y a quand même c'est un peu compliqué d'être une habitante ou une habitante non blanche donc voilà et en fait non contente de mener une politique de harcèlement quotidien donc envers les habitants et les habitants du quartier, la mairie a fait installer un dispositif de barrière métallique entravant la majorité des bords de la rue Paulbert, où se tiennent habituellement donc les étals pendant le marché du Ramadan. Et mais bon, a priori, ils n'étaient pas complètement contents de ça, ils voulaient un peu plus. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que ce jeudi 9 mai, donc vers 17h, la police, donc sans doute non sans racisme ou islamophobie, eh ben, a déboulé avec une vingtaine de flics armés et accompagnés d'un camion Ben. Et ils ont tout simplement confisqué et détruit sur place des tables de commerçants et commerçantes, donc rue Paulbert. Les flics ont d'abord débarqué en nombre, en encerclant des étals et des commerçants et commerçantes de la rue. Puis, avec les éboueurs, ils ont jeté dans un camion Ben affrété par la ville, non seulement les produits alimentaires en vente, mais également le matériel mobilier, donc tables, barils, caisses, etc. Donc malgré la présence de nombreuses personnes sur la place, ils ont continué, donc la place Bayerian, ils ont continué leur destruction des stands jusqu'au bout de la rue avant de rentrer donc dans leur maison du commissariat dans le 3e arrondissement. Voilà. Donc il faut savoir que c'est pas la première fois que ça arrive. Ils avaient mis un peu plus de moyens en 2014, c'est le 6 juillet, où ils avaient carrément attaqué la place à coups de gaz, de matraque et de flashball. Donc voilà. Mais après, bon, c'est la police et voilà.
Mais alors figurez-vous qu'il n'y a pas que la police qui est contre la liberté d'installation et de circulation, mais il y a aussi la justice.
Et oui, parce que de retour dans les squats lyonnais, on va maintenant du côté de l'Amphizède. Alors là, ça fait même plusieurs années qu'il y a des centaines de personnes qui habitent du coup dans cet Amphizède à Villeurbanne. Et on a le rendu de leur procès aujourd'hui. Et du coup, on vient d'apprendre que l'Amphizède est expulsable dès le 1er septembre. Donc après plus de 18 mois d'occupation et près de 5 mois de procédure, le verdict est donc tombé. L'Amphizède est expulsable à partir du 1er septembre, sans qu'aucune solution n'ait été pour l'instant proposée à ces centaines d'occupants et d'occupantes qui vont devoir se préparer à passer l'hiver dehors. Petit rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi, l'Amphizède, qu'est-ce que c'est ? L'Amphizède, c'est un immeuble de 4 étages, occupé donc depuis plus de 18 mois. C'est des centaines de personnes et leurs soutiens qui ont petit à petit construit un collectif et gèrent un lieu selon des principes de l'autogestion. C'est un lieu d'accueil, de fête, d'échange et de partage comme il en existe peu. Un lieu de formation linguistique, politique et administratif à travers la mise en place de cours de français, de formation et d'auto-formation juridique et administrative. C'est aussi un lieu de soins, un lieu de retour à la vie grâce aux permanences médicales et surtout psychologiques qui ont permis à beaucoup de commencer à se reconstruire. Mais c'est aussi et surtout le symbole de la honte des politiques d'accueil de la France. Alors que Macron promettait que plus aucun demandeur d'asile ne dormirait dans la rue en France, alors que selon les propres lois de cet État, l'ensemble des habitants et des habitantes devraient être logés décemment, et alors que le maire de Villeurbanne se gargarise en promettant un accueil digne dans sa ville, mais pour l'instant se contente de multiplier les annonces, les pseudo-études et les nombreux cocktails. Pendant qu'à Lyon, les camps sont démantelés, où vont donc aller tous ces habitants et toutes ces habitantes ? Et donc encore une fois, votre solidarité est plus que jamais nécessaire.
Et à partir de demain, du coup, ce sera les Gilets jaunes, encore et toujours. Comme tous les samedis, ça doit être l'acte 26 quand même. Donc ça commence à pas rigoler quand même. Et la différence peut-être de l'acte de demain par rapport à ceux d'avant, eh ben, c'est qu'il y a eu un appel national des Gilets jaunes à venir à Lyon. Je crois même que ça s'appelle « Investir la capitale des Gaules pour défendre les services publics ». Donc autant vous dire que ça rigole pas à Lyon. Il y aura notamment des figures un peu emblématiques des Gilets jaunes comme Jérôme Rodriguez ou Ramos qui vont venir à Lyon. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va y avoir une manif qui est appelée à 14h place Bellecour et du coup, cette manif va faire déclarer en préfecture et du coup, c'est à peu près le plus long parcours de l'histoire des manifs, parce que la manif part de Bellecour, ensuite elle passe Antonin-Poncet, ensuite elle remonte jusqu'au Pont-Morand, donc du coup à l'hôtel de ville, elle redescend jusqu'à Berthelot, elle traverse en direction de Jean Massé, de Jean Massé elle remonte à Saxe, ensuite de Saxe elle va à Bellecourt, et là normalement ça termine à Bellecourt, et donc ça c'est le projet initial, parce que quand même ce qu'il faut se dire c'est que les flics sont sur les dents, mais alors méga sur les dents, donc par rapport à d'habitude où il y avait un seul secteur qui était interdit aux manifestations, et ben cette semaine il y en a quatre. Donc il y a le secteur qui va à l'hôtel de ville, à Bellecourt, mais aussi celui de la Pardieu, celui de Victor Hugo avec tout un bout de la place Carnot, et aussi tout le Vieux-Lyon. Donc autant dire que les flics sont complètement seront de partout pour bloquer les tentatives des manifestants ou manifestantes d'aller par là, mais les flics seront pas là que sur les secteurs interdits, mais seront aussi bien en amont, parce qu'il y a un certain nombre, enfin il y a pas mal de contrôles qui vont être effectués en amont par les forces de l'ordre, mais aussi aux barrières de péage, à la sortie des trains et tout. A priori, le dispositif policier qui est annoncé est un peu dingo. Mais du coup, si jamais cette manifestation arrivait à revenir jusqu'à Bellecourt, eh bien normalement il y aurait un barbecue qui serait organisé à partir de 18h30. Et alors là, vous me direz, ce serait pratique que ce soit à Bellecourt. Bah pas du tout, ce serait au parc de Gerland. Donc du coup, voilà. Alors après, généralement en ce moment, les manifs des Gilets jaunes ont tendance à se faire nasser, à se faire embarquer jusqu'à Gerland par les flics. Donc du coup, bah peut-être qu'ils se sont dit, tant qu'à faire comme ça, si jamais on se fait coincer par les decks, on pourra toujours être sur place au niveau de Gerland. Mais du coup, voilà, a priori, ça va être une grosse manif, mais bon, faites gaffe quand même, parce que ben, les flics qui sont déjà très bourrins d'habitude aux manifs des Gilets jaunes, ben là, on dit qu'ils allaient l'être encore plus.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et voilà, du retour sur les ondes du 102.2 Radio Canu, vous êtes sur le Canu Info du vendredi. On vient de rentrer dans la rubrique nationale, et dans cette rubrique, j'avais envie de vous parler d'un petit truc qui paraît assez anecdotique, parce que j'ai vu ça sur Twitter, mais qui m'a bien énervée. Du coup, j'avais envie de vous en parler. Et alors, qu'est-ce que j'ai lu sur Twitter cette semaine? J'ai lu qu'un collectif abolitionniste avait déposé le slogan militant « Bois mes règles » comme une marque, et donc maintenant essaye d'empêcher d'autres personnes qui l'utilisent de l'utiliser sous peine de mise en demeure. Alors, de quoi est-ce que je vous parle exactement? Oui, c'est vrai, j'ai lu ça le 8 mai. Le collectif, qui alors sur Twitter s'appelle Abolition Porno Prostitution France 1, a tweeté, je vous cite, hashtag bois mes règles, ainsi que notre logo est une marque déposée par notre collectif. Nous demandons donc à un autre collectif qui s'appelle Cyclic/FR de retirer ce logo et cette propagande sous peine de mise en demeure. Alors juste pour vous dire, Cyclic c'est une plateforme collaborative sur le net dédiée au cycle menstruel et à la santé gynécologique. Et depuis c'est la folie sur Twitter pour savoir à qui appartiendrait ce slogan. C'est un débat qui est bien stérile quand il peut être en vrai repris par toutes les féministes et toutes les personnes qui le souhaitent comme un outil d'autodéfense. Par exemple, quand un mec t'emmerde, tu peux lui répondre « bois mes règles ». Et on se rend compte aussi que, quand même, le capitalisme détruit décidément bien des outils de lutte. Donc cette expression féministe « bois mes règles » est employée par toutes les personnes qui le souhaitent, qui veulent lutter contre le patriarcat. Et on voit mal en quoi le fait d'avoir déposé cette expression peut servir ce collectif abolitionniste, si ce n'est pour faire sa pub de façon bien crade. Ça prétend s'opposer à la marchandisation, mais en fait, ça dépose des slogans, des punchlines féministes pour en devenir propriétaire. Ça fait quand même un peu réfléchir. Au milieu de tout ça, voilà, moi qui étais énervée, j'ai vu que les Arocs avaient sorti un article qui revient sur l'expression « bois mes règles », donc j'avais envie juste de vous en lire quelques extraits. Et donc cet article des Inrock qui dit par exemple qu'en mars dernier, en marge d'une marche nocturne féministe, on pouvait lire sur les murs du centre-ville de Bordeaux « Bois mes règles ». Donc voilà, c'est un tag que vous pouvez marquer pour vous affirmer si vous le souhaitez. Quoique que ce soit sous la forme d'un tag de rue ou d'un hashtag employé par les voix féministes sur Twitter. Cet ordre sanguin n'a rien d'une provocation facile. Et donc on observe depuis 3 ans la récurrence de l'invective sur les réseaux sociaux au sein de cercles de féministes. C'est même une stratégie d'autodéfense. Dite de façon brute, comme « balancer à la gueule », les règles sont soudainement défensives, elles deviennent des armes. On peut penser aussi à d'autres slogans du type « la coupe menstruelle est pleine ». C'est une façon en fait de dire au patriarcat « lâchez-nous ». On voit aussi que par exemple le festival Sans Rancune, sans S-A-N-G, qui est le premier festival qui a été consacré aux règles, a opté pour un visuel « bois mes règles ». C'est un peu, si vous voulez, le pendant 2.0 de « ceci est mon sang ». Autre exemple, par exemple, le collectif féministe GAST. Alors GAST, c'est le collectif féministe mixte bilingue breton-français en Bretagne, a accolé l'appellation « Bois mes règles » à sa journée de débat et d'atelier consacré au tabou des menstruations. Face aux expressions qui dissimulent, comme « ragnagna », « avoir ses ours » ou encore le « débarquement des Anglais », les règles s'affichent au contraire ici clairement. Et dans une société où le foutre masculin est si envahissant qu'il parasite la moindre expression langagière, il est un peu, de manière très spontanée, que les règles reprennent leur place et servent aussi l'émancipation des personnes qui les vivent. Voilà, du coup, c'était le petit coup de gueule qu'on trouvait ça assez indécent que donc ce collectif Abolition Porno Prostitution France 1 décide de privatiser, de labelliser des slogans féministes qui peuvent servir d'autodéfense et d'émancipation à certaines.
Du coup, ben, je vais changer complètement de sujet et je vais vous reparler de la police et notamment de leur des fameux voltigeurs donc, qui font leur retour et notamment de ce qui s'est passé le 1er mai donc, de cette même année. Du coup, le 1er mai, vous vous souvenez toutes, à Paris, des manifestants et manifestantes se sont réfugiés dans l'enceinte de l'hôpital du 13e arrondissement afin d'échapper aux gaz lacrymogènes et aux violentes charges policières qui ont lieu sur le boulevard de l'hôpital. Le ministre Castaner a alors menti et parlé d'attaque de l'hôpital, avant de se rétracter devant le flot de témoignages qui contredisaient donc cette version des faits. Donc les manifestants et manifestantes n'ont bien évidemment pas du tout attaquer l'hôpital. Par contre, s'il y a eu des attaques et des violences, c'était dans l'enceinte de l'hôpital, mais celles-ci sont le fait plutôt de la police qui a matraqué plusieurs personnes ne représentant aucun danger. Un jeune homme étudiant qui habite dans la résidence universitaire du Crous située sur le site de la Pitié-Salpêtrière s'est fait matraquer par des voltigeurs parce que, ben, du coup, noir est situé au mauvais endroit. Il était en bas de chez lui, il ne manifestait pas. Il a pourtant été frappé et poursuivi dans son hall d'entrée par plusieurs flics. Son frère, présent sur les lieux, a subi le même sort. Une partie de ces violences particulièrement graves a été filmée par un étudiant, alerté par le bruit en bas de sa résidence universitaire. Le site Révolution Permanence a sorti cette vidéo de l'agression policière qui restitue relativement bien l'ambiance de chasse à l'homme qui a régné dans les rues de Paris ce jour-là. Les deux hommes se réfugient, je disais tout à l'heure, les deux hommes se réfugient in extremis dans leur appartement. Ainsi, après seulement quelques semaines d'existence, les escadrons de voltigeurs qui se dénomment BRAVE, pour Brigade de Répression Anti-Violence, ont montré leur sauvagerie et leur véritable raison d'être. Difficile de ne pas penser à Malik Houssekine, qui s'était fait tuer dans un hall d'entrée sous les coups des voltigeurs de l'époque. Cette fois-ci, les deux personnes ont pu se planquer, mais ce n'est peut-être pas passé très loin. Est-ce la chance, la solidarité de ses voisins ou la présence d'une caméra qui a permis de contenir cette agression? En tout cas, c'est plutôt... ils sont sortis, on va dire, ils sont toujours vivants, donc c'est... voilà. Les deux jeunes hommes frappés dans le hall de leur immeuble, par contre, ne désirent pas porter plainte, résignés malheureusement par l'impunité policière soutenue et organisée par la justice française. En tout cas, nous, on les soutient et... on a une petite rubrique contre d'ailleurs les flics, je veux dire.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Et Et oui, Chronica International, et ben on parle de quoi ? On parle de l'international et on parle du Brésil. Du coup, il y a un certain nombre de choses qui se passent au Brésil, notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro, qui est du coup le nouveau président plutôt d'extrême droite, même carrément d'extrême droite, je ne sais pas pourquoi je pense. Mais voilà, un président d'extrême droite qui arrive au Brésil. Et ben du coup, il y a plein de trucs un peu dégueux qui se passent là-bas. Moi, je n'avais pas envie de revenir sur tous les trucs dégueux, ce que j'avais envie sur les trucs du coup de lutte qui se passe contre ce que fait du coup ce nouveau président. Et alors d'abord, bah, du coup, je vais être obligé de revenir sur les trucs dégueux qu'il fait, mais pour parler de comment les personnes ont trouvé des moyens de lutte quand même face à ça. Et du coup, notamment, du coup, ce président, il a une politique qui est particulièrement contre les populations autochtones du Brésil. Et du coup, il a envie de faire disparaître en fait les populations autochtones, notamment parce que les populations autochtones représentent 1% de la population, elles occupent 13% du territoire, mais parce qu'en fait leurs territoires sont situés en Amazonie, dans des zones très peu densément peuplées, et où l'importance de cette zone est écologique avant tout, et puis surtout c'est les territoires en fait ancestraux de ces populations qui ont mis beaucoup de temps à récupérer et à protéger un certain nombre de leurs acquis et de ce qu'ils avaient avant l'arrivée des colons européens. Ça, c'est tout un tas de choses qu'ils ont obtenues par la lutte petit à petit et que Bolsonaro est en train de remettre en cause. Donc il y a notamment en fait en mars, le gouvernement avait tenté de municipaliser le système de santé indigène, et alors en fait parce que les populations autochtones ont un système de santé qui leur est propre, notamment parce qu'en fait, ils habitent loin des villes et qu'ils ont des besoins spécifiques. Et du coup, la volonté du gouvernement de municipaliser, on pourrait dire, c'est cool de rendre public un système de santé et de le faire dépendre des mairies. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, c'est pas du tout adapté. Et notamment aussi parce que, le système de santé brésilien déjà manque énormément de moyens. Et du coup, ça allait remettre en cause en fait l'accès à la santé des populations autochtones. Et donc après un certain nombre de manifestations dans tout le pays, le gouvernement a finalement reculé. Mais il y a un autre truc pas cool qui est en train de faire Bolsonaro, et du coup c'est de retirer la FUNAI, du coup c'est l'organisme qui est chargé de la protection des indigènes, et de la tutelle du coup du ministère de la Justice, pour la faire passer sous l'autorité du ministère de la Femme, de la Famille et des Droits de l'Homme. Donc, du coup c'est changé un organisme qui était là justement pour apporter des solutions de justice, des solutions en fait qui étaient issues des luttes des populations autochtones, et les faire passer du côté en fait quelque chose d'un peuple, à protéger en fait, d'infantiliser en fait, de mettre dans le truc de la famille, des droits de l'homme, alors qu'en fait non, pas du tout, c'est des populations en fait à qui on a pris leur terre, à qui on a pris leurs droits, et qui du coup utilisaient la justice justement pour pouvoir se défendre face aux attaques à la fois de l'agro-business et des différentes tentatives de colonisation de l'État brésilien. La ministre du ministère de la Femme, de la Famille et des Droits de l'Homme, qui est de confession évangélique, elle a laissé entendre qu'elle voulait forcer le contact avec les indigènes isolés, ceux qui ont choisi de ne pas prendre contact avec l'État, ou ceux qui ne savent pas qu'il existe. Du coup, c'est vraiment en fait la question en fait du coup d'évangéliser en fait ces populations. On revient en fait au début de la colonisation en fait, où on allait forcer les populations autochtones à se convertir à la foi européenne, quoi. Et donc par ailleurs, il y a aussi en fait les terres indigènes qui étaient démarquées en fait par le ministère de l'Environnement. Du coup, c'était les terres protégées, en fait les zones protégées étaient définies par le ministère de l'Environnement, et là ça va passer au ministère de l'Agriculture. Donc du coup, vous doutez bien que le ministère de l'Agriculture, lui il est plutôt aux mains des représentants de l'agro-business, et donc du coup ça va fortement réduire les dimensions de ces territoires et les démarcations aussi, et alors même que c'est un certain nombre de luttes qui prennent beaucoup de temps du coup, et que ça pour faire reconnaître la souveraineté des populations sur ces territoires-là. Ce que veut faire aussi le gouvernement, en fait c'est hyper long tout ce qu'il veut faire, mais il y a un certain nombre de choses voilà, qui sont mises en place. Du coup, vraiment, l'idée, c'est de montrer qu'il y a vraiment une offensive généralisée en fait, sur tous les points de la vie des populations autochtones. En fait. Et du coup, parce qu'en fait, il veut aussi supprimer les conseils sociaux, qui sont des organismes en fait, qui sont composés de membres de la société civile et qui ont été essentiels en fait, dans la conquête des droits des populations autochtones. Du coup, le fait de les supprimer, bah, ça va empêcher les populations de pouvoir s'exprimer publiquement, d'obtenir la parole et de pouvoir accéder à une représentation politique pour pouvoir obtenir de nouveaux droits. Et du coup, il a aussi menacé en fait, de sortir de la Convention 169 de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, qui oblige les États à protéger leurs populations autochtones. Et du coup, c'est vraiment la question en fait, de pas du tout protéger ces populations autochtones et de pas du tout permettre à ces populations d'obtenir... d'avoir la parole en fait. Et de la même façon, en même temps, eh ben, qu'on leur enlève la parole et qu'on leur enlève la possibilité de s'exprimer et de mettre en avant en fait, leurs difficultés et leurs envies, eh ben, il y a le ministre de l'Environnement qui lui va proposer un projet de loi qui va faciliter l'obtention de licences environnementales dans le cadre de grands projets d'infrastructure. Donc du coup ça veut dire que pourra y avoir beaucoup plus facilement des autorisations de construire des grands projets miniers, des grands projets d'autoroutes, des grands projets agro-industriels. Et du coup, cela même, en même temps qu'on va complètement museler la parole des communautés autochtones, donc du coup, non seulement elles pourront plus s'exprimer, mais en plus, ça va laisser la main libre, en fait, du coup, à toute l'agro-business pour pouvoir s'implanter sur leur territoire. Et en même temps, et ben en fait, il y a l'IBAM, qui est un organisme chargé de la protection de l'environnement et qui traverse en fait une période de troubles rythmés en fait par un certain nombre de démissions, de coupes budgétaires, de licenciements, de tout un tas de pressions en fait extérieures qui réduit de plus en plus sa capacité à protéger justement l'environnement et du coup à protéger le territoire des populations autochtones. Et donc il y a par exemple en avril, le président lui-même qui est intervenu pour mettre fin à une opération anti-déforestation au milieu de la forêt amazonienne. Donc c'est le président qui se déplace pour empêcher la mise en place, enfin la défense de l'environnement, quoi. Et donc face à toute cette cette attaque contre leurs droits, contre leurs terres et contre leur représentation politique, eh ben, les populations autochtones du Brésil ont choisi du 24 au 26 avril dernier de se rassembler sur la capitale politique à Brasilia pour mettre en place ce qui s'appelle l'Acampamento Terra Livre. Ça veut dire le campement en extérieur. Et du coup, ça c'est une manifestation qui existe depuis 15 ans, mais qui du coup... et ben avec l'arrivée au pouvoir du coup du nouveau président et ben c'est tenu en fait du coup dans un contexte politique bah, particulièrement tendu et notamment en fait bah du coup les populations autochtones sont venues pour la plupart sans leurs enfants et sans leurs anciens, ce qui en dit long en fait sur le contexte dans lequel ça se passe. Et du coup il y a plus de 4000 personnes qui sont venues de 170 délégations de peuples indigènes sur les 305 peuples indigènes différents que représente le pays. Et du coup, pendant ces trois jours, les populations autochtones et enfin, ces délégations-là ont pu manifester dans toute la ville. Ils ont manifesté d'abord devant le ministère de la Santé et puis aussi devant le ministère de la Justice. Ils n'ont pas pu accéder au Congrès parce que en fait, la garde nationale, et du coup, ça, c'est la première fois que ça arrive, en fait, c'est la garde nationale, du coup, c'est vraiment le dernier rempart de protection de la police brésilienne qui a formé un cordon de sécurité tout autour du Congrès, donc de l'équivalent de l'Assemblée nationale, pour que les représentants des peuples indigènes ne puissent pas approcher. La même chose que dans le même temps, en fait, la garde nationale, elle, a essayé de gêner l'organisation du campement. Et du coup, la police est massivement intervenue dès le premier jour pour repousser le campement dans un endroit moins visible. Les populations autochtones ont réussi, elles, à déplacer le campement que de quelques kilomètres. Alors même que, du coup, bah, y avait énormément de flics, mais du coup, en fait, vu le nombre qu'ils étaient, vu leur détermination, ils ont pu rester grandement dans le centre de la ville. Et en même temps, il y avait un arrêté préfectoral qui interdisait la vente d'eau aux indigènes sur la zone du campement. Et du coup, qui a finalement été tombé, parce que enfin, bon, voilà, finalement, cet arrêté n'avait pas non plus... Enfin, c'était un message, en fait, parce que je trouve que tout le monde s'en foutait et que l'eau était quand même vendue, mais que c'était quand même un certain message envoyé, quoi. Et du coup, tout ça se passe dans un contexte où la résistance des populations autochtones est de plus en plus structurée. Il y a de plus en plus de délégations, les gens sont venus en voiture, on a fait du covoiturage, on a prêté des bus. Enfin, il y a vraiment une mobilisation collective dans les populations autochtones, et notamment en fait chez les femmes, qui s'imposent de toujours davantage dans ce mouvement-là. Et du coup, il y a un certain nombre de femmes qui se retrouvent chefs de file de délégation. Et du coup, ça, c'est à remarquer et à applaudir. Et notamment face à un président qui est connu pour son machisme et ses interventions sexistes plus que tout. Donc voilà pour le Brésil. On espère que ces mouvements de lutte vont se multiplier. Et on espère que cette espèce de pecno de pignou de président ne va pas réussir à faire tout ce qu'il a promis. Parce que s'il fait tout ce qu'il a promis, ça va être moche, mais on compte sur les Brésiliens et les Brésiliennes pour se battre.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et oui, pour cet agenda, on va revenir sur ce qu'on vous a déjà dit tout à l'heure, mais sur le retour de cette lutte dans l'éducation, et notamment le rendez-vous dès demain pour former un cortège éducation dans la manifestation nationale des Gilets jaunes à Lyon. Et donc le rendez-vous est donné à 14h devant l'office du tourisme à Bellecour. Et tout ça pour se préparer à l'appel à une journée de grève le mardi 14 mai. Et alors le mardi 14 mai, les rendez-vous pleuvent, puisque vous avez rendez-vous devant le rectorat dès 8h30 du matin, avant la nouvelle AG départementale à la Bourse du Travail à 10h30, qui pourra décider des actions de l'après-midi. Mais vous pouvez déjà noter dans votre agenda qu'il y aura une action à l'hôtel de Ville Place de la Comédie à 12h30. Toujours ce mardi, il y aura aussi un rassemblement Place de la République pour dénoncer la Turquie qui emprisonne ses universitaires. Donc depuis 3 ans, les universitaires pour la paix, signataires d'une pétition intitulée « Nous ne serons pas complices de ce crime », appellent l'État turc à reprendre les pourparlers de paix et à arrêter le mauvais traitement de la population kurde de la Turquie, subissant une répression politique féroce de la part du pouvoir politique turc. Évidemment, je n'ai pas noté où aura lieu ce rassemblement, mais sachez qu'il a lieu le mardi 14 mai, que le sujet vous intéresse, et donc vous irez chercher l'horaire, puisque vous savez aussi que c'est Place de la République, sur rebellion.info. Sur rebellion.info, vous pourrez aussi lire qu'en fin de semaine, les jeudis et vendredis, donc les 16 et le 17, il y a un stage intersyndical qui est proposé, pédagogie et syndicalisme, individualisation ou coopération. Et donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous y inscrire. Et ce stage a donc lieu le jeudi et vendredi 16 et 17 mai, de 8h45 à 17h. Enfin, du coup, jeudi prochain, toujours, vous pouvez découvrir l'auto-école buissonnière si vous le souhaitez. C'est vraiment super. Alors, qu'est-ce que c'est que l'auto-école buissonnière ? C'est un projet pour apprendre à conduire entre potes et passer son permis librement. C'est du coup un collectif qui se réunit tous les 3e jeudi du mois à l'Amicale. L'Amicale, c'est 31 rue Sébastien Griff, Lyon 7e. Et donc, c'est un collectif lyonnais qui propose une auto-école autogérée et qui du coup vous permet d'apprendre le permis, d'apprendre le code et de passer le permis sans passer par une auto-école. Enfin, vendredi prochain, vous aurez peut-être la chance de rencontrer Silvia Federici autour de son nouveau livre Le capitalisme patriarcal, puisqu'elle donne une conférence débat à l'université Lyon 2, conférence qui est co-organisée par le collectif Table Rase et par la librairie Terre des Livres, mais aussi le collectif Tilantia et le groupe féministe matérialiste Que de beau monde. Et oui, vous y serez sûrement. Ce sera le vendredi 17 mai à 18h à l'Université Lyon de Quai, c'est 86 rue Pasteur, à l'amphi Fugier plus précisément, et c'est aussi dans le 7e.
Je m'appelle Marius, j'ai 14 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire AK
Cagnosco
du vendredi.
Et oui, comme tous les vendredis, vous aurez notre petit cadeau de fin d'émission, le ACAB. Il faut savoir que ce ACAB est réalisé pendant l'émission, mais qu'on adorait, recevoir des dizaines de propositions d'ACAB, de photos avec des mises en scène d'ACAB, tout ça pour montrer à quel point chaque semaine. Et encore une fois, ACAB, ça veut dire...
Alors là, cette semaine, figurez-vous qu'il y a une nouvelle association qui s'est créée, et c'est l'association contre les agents de la Brave. Donc voilà, bienvenue à eux.
Est-ce qu'on rappelle juste qu'est-ce que c'est la Brave avant de finir ?
Oui, c'est les nouveaux voltigeurs.
et sur ce, longue vie à cette nouvelle association et longue vie à Nos Pollution.